Voilà, de retour en direct. On va se faire le petit agenda comme d'habitude avant de passer à la rubrique suivante. Donc, juste vous signaler, on en parlait juste il y a 10 secondes de la rencontre avec les auteurs libanais. Donc, c'est fait dans le cadre d'un festival qui s'appelle Beyrouth plus belle qu'elle n'était, qui a lieu au hall de Scarbec et qui est donc qui se déroule jusqu'au 12 avril. Avec toujours du cinéma, des conférences, je crois des installations encore. Donc toutes les infos sur le blog, comme les infos pour le concert qui aura lieu le 1er avril. Alors je vais les dire, hein, les noms des groupes, c'est bien. C'est Micht, Lise Albi et Hans Grüssel Krankenkabinett. C'est organisé au Bunker le 1er avril. Toujours aussi une programmation au Nova dont on avait déjà parlé aussi avec des films d'animation de films L'Œil, des films d'un cinéaste russe peu connu, Konstantin Lopushansky, pardon, et un documentaire sur le Takwa-Kor qui est donc au Nova jusqu'au 10 avril plus ou moins. Histoire de livres, donc là c'est un salon du livre d'artiste, on va dire ça comme ça, qui se déroule à Ixelles le week-end qui vient. Alors, l'employé du mois y sera, Norest y sera, ce qui ferait moi qui sera.
Peut-être, ça c'est
Peut-être, voilà,
un
pas,
suspense jusqu'au bout. Ouais.
ça doit se discuter encore. Mais donc, toute une série de maisons d'édition dont on vous parle assez souvent, ils seront présents. Donc, n'hésitez pas, c'est à l'ERG, donc c'est au niveau d'Ixelles à Bruxelles.
Rue
Alors
du
le
Page.
voilà, la rue du Page. Le dimanche 3 avril, il y aura aussi le finissage de l'expo de Rosenbrecker. Donc ça, c'est à l'atelier Nord-Est. Je crois pas qu'on vous avait parlé du vernissage, mais donc là, on se rattrape en vous parlant du finissage. Une causerie avec Blexbolex, animée par l'incroyable Stéphane Noël. Ce sera le 8 avril.
Aussi
Et
c'est
donc,
BBD.
voilà, au CBBD. Donc toutes les infos aussi seront sur le blog. Une exposition à ne pas rater, là c'est vraiment du copinage. Bertrand Panier, je vais dire ça comme ça, voilà. Bertrand Panier qui exposera son travail foisonnant à l'atelier Nord-Est aussi, donc c'est du 8 avril au 10 mai, je crois, si j'ai bien toutes les infos. Et puis on termine par un dernier concert qui aura lieu le 15 avril à Naplantine pour la sortie de son nouveau 7-inch. Et ça, ce sera à la Compilothèque. Voilà, donc de toute façon, toutes les infos précises sur le blog. Alors, on passe à la rubrique Autour du paysage. On accueille pour celle-ci donc Thierry et Ève. Thierry Vanasselt et Ève Deluze, qui nous parleront par la suite de la plateforme Frémok.
Bonjour.
Bonsoir.
Bonsoir.
C'est comme un radio contact, à un moment, il faut dire bonsoir dans le micro. Stéphane Jaune, hein, voilà, on vous passe la parole. N'hésitez pas à intervenir, Ève et Thierry, sur le contenu de cette rubrique.
Voilà, en général, on réagit un peu par rapport aux invités ou par rapport à une thématique en particulier. Et moi, je suis gonflée, je viens avec un livre de théorie assez dense, donc je ne vais pas du tout m'amuser à vous le résumer ou le réexpliquer ou quoi. Donc, je vais juste essayer de donner envie aux gens de le lire, parce que je trouve que qu'on soit musicien, artiste ou auteur de bande dessinée, c'est une réflexion sur le processus créatif auquel j'ai souvent songé après l'avoir lu. Donc, en gros, donc ça s'appelle L'ordre caché de l'art, ça a été écrit en 67, donc c'est pas très récent. C'est un auteur qui s'appelle Anton Ehrensweg. Donc c'est un livre théorique qui décortique le processus créatif et qui décrit comment cohabitent nos différents niveaux de conscience lorsqu'on est confronté soit à la création, soit à une œuvre d'art. Et que donc ces niveaux peuvent être en conflit et donc il décrit comment évolue notre perception en fait, puisque donc quand je parle de conflit, c'est par exemple quand on est face à un nouveau mouvement artistique ou une nouvelle musique, comme ça peut être le cas dans des tas de fois dans l'histoire, en fait, avec la musique Schoenberg ou enfin, l'art moderne. Voilà. Et donc, il y a des aspects qui m'intéressent et que j'ai envie d'aborder rapidement ici par rapport à la bande dessinée. En fait, c'est que donc, quand on est face à l'art, il y a des processus inconscients qui entrent en jeu. Et donc, souvent, quand elle surgit, ça peut paraître chaotique ou un peu déstabilisant. Et en fait, cet auteur défend la thèse selon laquelle c'est au contraire cette couche de notre personnalité qui est intéressante lorsqu'elle est stimulée. Et donc, par rapport au dessin, je trouvais ça assez intéressant parce que j'y pense souvent, en fait. Quand on dessine, on peut avoir recours à une série de signes, à un répertoire de signes préétabli, qu'on utilise pour mettre en scène une série de choses. Et puis, on peut aussi se laisser aller à une manière de dessiner qui est plus inconsciente, enfin, plus spontanée. Et donc, voilà. C'est cette manière de faire appel à un ordre un peu inconscient. Il appelle ça l'ordre caché de l'art. Voilà, donc je ne sais pas si vous me suivez un peu, parce que là, tout le monde me regarde en disant, oula,
qu'est-ce qu'elle raconte ?
Ouais, je ne suis pas sûre.
Bon sang, voilà. C'est bien
donc,
sûr.
En fait, c'est, on a un état de conscient qui est en fait assez étroit, qui est focalisé. Par exemple, si je te dessine, Stéphane,
oui.
je peux me dire, d'abord, je dessine ton œil, ensuite, je dessine ton nez. Enfin, je peux détailler comme ça et avoir une vision très, très analytique du dessin. Je peux aussi balayer Stéphane et inclure avec un bout de Nicolas et puis un bout du radiateur. Et donc, disons que c'est une démarche tout à fait différente en fait, par rapport au traitement de l'image. Et du coup, il y a des nouvelles choses qui surgissent. Et je trouve que c'est une habitude qui est rarement prise, par exemple, dans la bande dessinée. Et c'est pour ça que, par rapport à Frémok, je me dis qu'il y a peut-être des choses à dire par rapport à ça. C'est quand même une démarche que vous avez engendrée ou vous avez... est-ce que vous avez élargi quelque chose par rapport à ça ? Et aussi, j'ai lu tout ce que vous racontez dans le livre du match de catch, et je trouve aussi que, de nouveau, on a un écho par rapport à cette volonté, en fait, de briser une certaine habitude, une certaine logique par rapport à un geste, ou la volonté de présenter des choses nouvelles qui peuvent être aussi refusées. Par rapport à la sensibilité des autres. En fait, c'est ça, c'est faire évoluer la sensibilité des gens ou faire évoluer sa sensibilité d'artiste.
Oui, je pense que c'est quand même aussi avant tout essayer de retrouver une sorte de fraîcheur dans la représentation elle-même on veut raconter quelque chose, on a un propos, je pense que ce propos doit amener un certain trouble ou en tout cas un certain type de sensation, de sentiment et de ressenti, et que pour arriver le plus directement à provoquer ces choses-là, on doit le faire avec un langage plastique qui est très 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 singulier. Si déjà la forme elle-même est convenue ou attendue, on ne peut pas arriver vraiment à une sorte de précision ou de singularité, de sensation et de ressenti. Je crois que c'est vraiment ça. Donc c'est pour essayer de trouver par rapport à chaque propos la forme qui va être la plus directe. Et effectivement, quand on a travaillé sur le projet Match de Catch, c'est sans doute là que ce processus-là est plus visible, parce qu'effectivement, on a travaillé avec des artistes handicapés mentaux, donc qui ont un univers graphique qui est tout à fait différent, qui n'ont pas du tout notre parcours, d'experts du dessin et de la bande dessinée, puisque nous, on est quand même des diplômés. Je trouve ça rigolo de dire ça maintenant. On est des gens qui avaient une pratique hautement culturelle de la bande dessinée, alors qu'eux sont tout à fait en dehors de cette idée de la culture et qui sont beaucoup plus directs et beaucoup plus libres dans leur façon d'aborder la représentation. Et finalement, de s'articuler avec eux pour créer un processus narratif et plastique, ça nous donne vraiment tout de suite une espèce de grande liberté et une première vision du travail qui est complètement beaucoup plus inattendue, beaucoup plus troublante dans ce sens-là.
Une grande exigence aussi, j'imagine, puisque ces personnes arrivent avec une idée de la représentation qui est relativement figée aussi. Ils arrivent pas neutres et vierges, mais avec une capacité à représenter qu'ils supposent et qu'ils, quelque part, imposent aussi dans la confrontation avec vous.
Oui. Ils ont pas vraiment, c'est pas vraiment figé non plus. Il y a un truc qui est très particulier avec eux. Enfin, je pense que c'est pas, il faut, il y a rien qui est général parce que il y a toutes sortes de personnalités qui ont des spécificités vraiment très, très différentes. Mais pour ceux à qui on a travaillé, il y avait un truc qui était vraiment particulier, c'est que ils ne s'intéressent pas ou ils ne représentent jamais l'action. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de temporalité dans leur travail, alors qu'on est censé être confronté à eux pour faire un travail de récit. Donc dans du récit, il y a du temps, il y a de l'action, il y a du déplacement. Et que chez eux, finalement, il y a une très très grande liberté au niveau de l'espace et du type de représentation de ce qui est représenté, mais c'est toujours à l'arrêt, c'est toujours figé, c'est toujours immobile et comme pris dans un bloc hors du temps, quoi. Et donc, effectivement, là, il y a eu toute une espèce de processus à mettre en place ensemble pour arriver, nous, à faire que ce dessin se mette en mouvement, enfin, mouvement dans le sens dont la bande dessinée peut entendre le mouvement, donc c'est-à-dire qu'il s'articule et que, quelque part, il y a une temporalité qui apparaisse, quoi.
Cool.
Voilà, moi, je pense que je peux pas tellement aller plus loin, enfin dans ce livre à la radio comme ça, c'est un peu.
Stéphane, toi tu voulais enchaîner sur.
Oui, moi je m'étais par rapport à ça plutôt intéressé à des artistes qui se posent la question du flux narratif, c'est-à-dire des artistes qui dans différents médiums, qu'ils soient pas la bande dessinée, essaient de ralentir le flux. La narration, de manière à ce qu'on, à un moment donné, on tombe dans la matière de l'image, on soit confronté au trop peu narratif et donc à quelque chose, à l'émergence de la matière pure et peut-être à la déconstruction du sens. Alors, par rapport à ça, j'avais envie de parler de Michael Snow, qui est une espèce de figure du cinéma expérimental des années 60-70, dont j'ai mis quelques extraits sur le blog, où il y a le fameux Wavelength, qui est une pièce de une quarantaine de minutes, qui est un travelling avant de 40 minutes, extrêmement lent et extrêmement potentiellement chiant. Ici, je montre quelques images à nos invités. Donc, c'est donc bien dans une pièce, ça démarre avec quatre fenêtres filmées en plan large. Et Michael Snow a mis au point un système de travelling, donc c'est un moteur qui fait avancer la chose. Et ce moteur fait avancer à l'intérieur d'une pièce, donc sur quelques mètres. Une quarantaine de minutes, donc quelque chose d'extrêmement lent. Il y a en fait quelques apparitions narratives à l'intérieur de ce film, puisque à un certain moment, on va entendre presque hors champ une dispute arriver, et le film est accompagné d'un son continu et assez étouffant, une wavelength, et de temps en temps, il y a des sauts dans l'image. C'est un film qui nous confronte vraiment, imaginez-vous, dans une salle pendant 40 minutes, face à quelque chose, il ne se passe quasiment rien. On est à un moment donné dans quelque chose de quasiment hallucinatoire, on croit voir apparaître des choses, il y a de fait des changements de couleurs, des choses infinitésimales qui s'y passent. Et Michael Snow, à certains moments, a rayé la bande de son de telle manière à ce qu'il y ait des espèces de chocs, des boum, comme ça, qui émergent, qui vous font sursauter un peu. Donc, il joue vraiment sur le minima de la perception et sur la minima de tension, de telle manière à ce qu'on reste dans le film et qu'à la fois, on soit en même temps aux limites de son détachement. Il a fait dans le même ordre d'idées, mais je n'ai pas retrouvé du tout de film sur le net. C'est quand même de l'expérimentation assez pointue. See You Later, qui est un film de 17 minutes, qui est en fait basé sur une période de 30 secondes. C'est un film qui démarre en temps réel et qui progressivement se ralentit. Et il n'arrête jamais de se ralentir. Donc, ce qui fait que plus on avance dans le film, moins il se passe quelque chose. Et c'est un plan dans lequel un directeur sort de son bureau, prend son chapeau, dit au revoir à sa secrétaire et se dirige vers la porte qu'il ouvre. Et les derniers instants, le moment où il ouvre la porte, où apparaît une lumière très blanche derrière cette porte, devient extrêmement lent. Donc, là, on est vraiment dans des expérimentations assez, assez longues. Je voulais aussi vous parler de Super Mario Clouds de Cory Arcangel. Alors, Cory Arcangel est un artiste né en 78, donc après Wavelength. Et il a fait une pièce que je vais vous montrer ici, que j'ai là avec moi, qui s'appelle... celle-ci n'est pas Super Mario Clouds, mais est un autre
pendant. Et que tout le monde peut voir sur le blog aussi.
Tout le monde peut voir sur le blog aussi quelques images.
En direct, en même temps que nous, si vous voulez.
Si vous le voulez. En fait, Cory Arcangel a hacké des cartouches Nintendo. Donc, il a pris des cartouches Nintendo, il les a ouvertes, il a fait sauter les chips et il les a reprogrammées. Il faut savoir que dans une cartouche Nintendo, il y a deux puces. L'une s'occupe de ce qu'on appelle les sprites, c'est-à-dire toutes les images contenues dans le jeu. L'autre s'occupe de la programmation autour de ces sprites. Lui, il retire celle de la programmation et il a retiré le jeu.
T'as fait cette émission avec tes enfants,
Et il a donc retiré le jeu. Donc, dans ce cas-ci, on a c'est Mario Kart, sauf qu'il n'y a plus de jeu, il y a juste une route qui défile à l'infini en ligne droite. Et donc, on est d'un seul coup devant un paysage de jeu.
C'est presque beau.
L'autre pièce qui est plus connue, en fait, c'est dans la même veine, est Super Mario Clouds, qui est en fait l'équivalent, je vais la chercher ici, je l'ai aussi, sur Nestopia, Et ce sont, dans ce cas-ci, les fameux nuages de Mario qui se déplacent de droite vers la gauche, mécaniquement, un pixel à la fois. Et ce qui est assez intéressant par rapport à cette pièce, c'est que vous pouvez la voir sous trois formes différentes. Vous pouvez faire comme moi, c'est-à-dire avoir un émulateur de Super Nintendo, ou même pas de Nintendo, excusez-moi, et télécharger la cartouche virtuelle et avoir sur votre ordinateur ceci. Il faut savoir que dans les pièces d'exposition, c'est projeté avec des projecteurs vidéo sur le mur à partir de Nintendo. Vous pouvez aussi hacker votre propre cartouche. Si vous achetez la cartouche, Corey Arcangel donne le mode d'emploi pour réaliser cette pièce. Donc dans ce cas-là, vous devenez un espèce d'acteur de la pièce. Ou vous pouvez acheter l'œuvre d'art elle-même, c'est-à-dire acheter une cartouche hackée à Corey Arcangel. Sauf que là, ça coûte 25 000 euros, évidemment. C'est de l'art. Donc on a à la fois une version gratuite et à la fois une version payante. Donc ce qui est assez étrange et typique des arts numériques. Je voulais continuer encore en vous montrant, et puis on va en terminer là, les vidéos de Gary Hill. Gary Hill est un vidéaste d'installation anglais. Ah oui, tu voulais aussi parler de ça, on va revenir. Donc Gary Hill a fait des installations vidéo assez impressionnantes, assez belles, assez spectaculaires, et notamment celle-ci qui s'appelle Viewer, qui est en fait une triple projection dans laquelle on a 11 personnages qui sont en fait des immigrés mexicains, qui sont filmés en taille, qui sont projetés en taille réelle sur un mur d'exposition. Donc on est dans le noir, on a 11 personnages debout qui ont une incroyable présence puisque ils sont vraiment en taille humaine et on peut s'approcher très très près puisque le projecteur est placé de manière très très plongeante tout en respectant, en corrigeant la perspective. Oh là là, la vidéo ne démarre plus là-dessus. Et ces personnages sont tout à fait fixes, mais filmés en temps réel, et donc ça veut dire qu'ils se croisent, les mains, ils respirent, donc on voit leur poitrine bouger, et donc en s'approchant très proche, on a une présence physique assez incroyable de ces personnages, une présence vraiment physique dans l'espace, et à la fois ils regardent fixement devant eux, et donc la confrontation physique est assez incroyable. Donc Gary, il a fait plusieurs pièces dans lesquelles il a mis en jeu comme ça des personnages humains qui parfois se déplacent d'avant en arrière, mais chaque fois avec cette même très très grande présence, cette petite luisance des peaux, c'est parfois cette sueur qui coule, cette gêne perceptible dans les mouvements de ces personnages. Enfin, je voulais terminer pour ma part avec Peter Greenaway. Peter Greenaway, c'est assez spectaculaire parce que c'était une figure incontournable des années 80 et en fait, plus personne ne sait qui est ce gars. Quand j'étais jeune étudiant en art, on disait « Quoi, tu ne connais pas Peter Greenaway ? Putain, quel ringard !» Autant maintenant, quand je demande à mes étudiants s'ils connaissent Peter Greenaway, personne ne sait qui est Peter Greenaway, donc il est passé à la trappe de l'histoire à vitesse VV'. Pourtant, quelques pièces sont quand même à sauver. Bon, on connaît le contrat du dessinateur, de Jotman Contract, et Zoo, qui est son deuxième long-métrage. Avant ces deux longs-métrages qu'on peut trouver relativement facilement, j'ai même trouvé une version sur Dailymotion d'1h50, donc le film intégral sur Dailymotion. Il a fait plusieurs films expérimentaux assez drôles, bien qu'un peu chiants, dont le fameux World Through Ash, donc un voyage vers Ash, qui est un film assez étrange qui commence dans une salle d'exposition sur laquelle on trouve des dessins, la caméra s'avance et une voix commence à raconter que ces dessins appartiennent à, comment s'appelle-t-il encore, son personnage précis, un fou ornithologue et qui aurait fait ces dessins mais voler certains autres aussi, et certains autres ne sont peut-être pas de lui, et la caméra continue à s'approcher, et à un moment donné, on est dans ses dessins que lui considère comme des plans pour voyager vers cette fameuse ville de H. Et à un moment donné, il commence à raconter ce qu'on voit, là il y a un moulin, là il y a un chemin qui mène, et la voix off commence à raconter anecdote sur anecdote, en passant d'un tableau à un autre, en racontant ce récit qui devient interminable, dans lequel on s'embrouille dans tellement il y a d'anecdotes. Le film est assez long. Certains de ces dessins sont en fait, comme on le voit ici, des dessins d'animaux retouchés, mais ils sont chaque fois décrits par la voix off de manière tout à fait sérieuse comme étant des plans de ville. Et donc, à un moment donné, nous aussi, on y est pris, et à la fois, on décroche toujours à moitié, toujours en se demandant est-ce qu'on est bel et bien en train de voir quelque chose de clair ou quelque chose de totalement farfelu. Et le film se termine par un moment donné, on décroche, on revient en arrière, on revient dans cette salle, et on quitte, et le film s'arrête. Donc, Dans tous ses premiers films, il a utilisé de l'image, de la photographie. Dans ses premiers longs métrages, il a utilisé vraiment le dessin et la relation à la peinture de manière très, très, très présente. Dans Zou, par exemple, il y a de multiples évocations de Vermeer qui sont faites. Et dans The Dortmund Contract, bah, évidemment, on est dans la matière du dessin, puisque c'est un dessinateur qui est appelé pour faire une série de dessins. Donc voilà, toutes ces choses sont à voir sur le blog.
Moi, je voulais savoir par rapport à ça, qu'est-ce qui avait guidé ton choix? Et alors, de manière plus claire, quel est le lien, selon toi, plus ou moins, par rapport à Frémok? Enfin, tu t'en parlais deux secondes au début, mais oui. ça permettrait de faire le lien et qu'éventuellement Thierry ou Eve puissent...
Dans le cas d'un World to Ash, on est vraiment dans une série de plans fixes et parfois de léger travelling à l'intérieur de dessins, dans lesquels on a à la fois une voix qui nous raconte des choses de ce dessin et à la fois le flux de la parole, dans ce cas-ci qui est un peu trop rapide, nous perd et à un moment donné on décroche du récit et on est vraiment dans la matière de ce dessin, dans quelque chose comme une scrutation, des petites indications, quelque chose nous dit là il y a une route, là il y a un moulin et on les cherche dans cette image où on se perd et à un moment donné on switch sur un autre dessin qui est une autre vue qui paraît-il est une ville portuaire et donc on est chaque fois sommé de redéfricher dans cette image, de rechercher cette information qui nous est parlée par la voix. Et je trouvais ce rapport comme texte-image, enfin, voix-image, pour le coup, intéressante pour le cas de notre ami Peter Greenaway. Dans le cas de Super Mario Cloud, eh bien, il y a quelque chose comme une espèce de... À la fois, on est dans le signe du jeu, on reconnaît le jeu, et à la fois, on est tout à fait perdu parce qu'il est réduit au pur état de paysage contemplatif, ce qui est quelque chose d'assez étonnant par rapport à des images super pauvres, comme celles du numérique. Donc, c'est des gros nuages en pixels, et donc à la fois on est dans la contemplation de ces nuages de pixels, à la fois on se dit qu'est-ce que c'est que cette matière merdique, et il y a la tension entre les deux dans les lieux d'exposition est assez intéressante en fait, parce que on est à la fois dans un espace qui est celui de la peinture traditionnelle, et à la fois dans les reliquats d'une expérience du jeu vidéo dans lesquelles la vitesse, la tension du jeu sont encore présentes, mais de manière tout à fait oubliée. Et je trouve ça...
Est-ce que vous Thierry, ça vous évoque quelque chose par rapport à certains auteurs qui ont pu publier des bouquins chez vous ou même de manière plus générale à des choix que vous faites par rapport à Frémok, par rapport à ce que disait Stéphane? Est-ce que...
Oui, dans le sens où il y a toujours l'idée d'amener la bande dessinée à un endroit où on ne l'attend pas, ou de l'utiliser pour, dans un autre but, ce à quoi on peut s'attendre. On peut penser que la bande dessinée est faite pour quelque chose, par exemple raconter bien des bonnes histoires, et que nous, on ne l'utilise pas du tout de cette manière-là, un peu comme on peut le voir dans ces expériences de cinéma ou ce truc avec le jeu vidéo, arriver à en proposer l'inverse de ce qu'il devrait être. Bon, chez Greenaway, je crois que le rapport est un peu différent. Effectivement, il y a ce jeu sur l'image et le texte qui peuvent venir effectivement à contrario ou créer une sorte de résistance et de ne pas avoir des voix qui se confortent, mais plutôt des voix qui se contredisent et qui viennent se perturber. Et finalement, c'est tout ça, c'est une expérience d'aller se perdre quelque part, pas avec les moyens spécifiques du médium, quoi.
Oui.
Je crois que dans cette optique-là, effectivement, il y a une espèce de... Oui, on est aussi un peu là-dedans, et dans le fait de, je pense, d'en jouer quand même avec un petit peu de délectation. Je pense que Greenaway faisait à ses débuts...
Oui, une ironie incroyable de l'humour, et surtout un vrai jeu à raconter des anecdotes étranges à nous rendre sûrs. Il y a toute une série de films dans lesquels il a utilisé par exemple la maison de campagne, une maison de campagne, pour commencer à raconter qu'il y avait différentes autour de cette maison, autour des fenêtres, autour des façades, différentes religions qui s'étaient créées pour des gens qui se mettaient face au soleil levant, des gens qui tournaient le dos au soleil levant, et en fait on a que des plans d'une maison de campagne en fait, autour duquel il bâtit des histoires folles de sectes, de ruptures théologiques, etc., sur du rien, en fait.
Oui, ce qui est intéressant, par exemple, cette idée-là, elle est utilisée, mais à l'inverse par Dylan Horrocks dans sa BD Atlas. Donc lui, il part de l'idée que dans une dictature qui est un pays un peu comme la Sildavie, les auteurs de bandes dessinées en fait cachent dans leurs dessins des plans militaires. Et lui va jouer sur ce même concept d'avoir des plans et des villes à l'intérieur des dessins, mais qui ont une portée politique, puisque en vendant leurs bandes dessinées à l'étranger, ils permettent de faire passer un certain nombre de plans militaires pour
que les gens envahissent le pays et les libèrent.
Que la résistance se mette en marche. Et là, il va jouer effectivement avec ces sortes de plans cachés, mais réellement cachés, là, à l'intérieur de dessins. Et lui, là, il va faire l'inverse. Il va faire de la narration à partir de ce concept.
Prison Break aurait-il le mec de Prison Break aurait-il pu faire un bouquin chez vous, quoi?
Je pense pas, non.
Ça, on en parlera dans la rubrique actualité. Enfin,
il y a un peu un inverse aussi, parce que les exemples que tu as montrés, je pense qu'ils gardent, finalement, ils utilisent effectivement le médium dans sa spécificité pour créer cette distorsion. Par contre, j'ai l'impression que tous ces exemples-là nous laissent quand même fort à distance du projet, quoi. C'est quand même assez froid et mental comme processus, alors que, enfin, pour moi, j'ai l'impression que, pour la plupart, parce qu'on peut pas généraliser non plus, le framework, c'est pas une école, c'est pas un courant, c'est pas des gens qui sont entendus sur. Il y a pas une charte ou il y a pas une pensée, quoi. Hein. C'est pas, je pense pas que c'est comme le surréalisme ou d'autres mouvements comme ça où il y avait une espèce de pensée théorique. On est des auteurs qui sommes réunis parce qu'on a effectivement des choses en commun, mais aussi une diversité très très grande. Par contre, je pense qu'il y a quand même une volonté de briser la distance et de retourner à quelque chose qui est très, très littéral, effectivement très, très spécifique, mais qui parle quand même, qui submerge quand même un peu et où, effectivement, on va utiliser la force du dessin et sans doute la force du texte, mais c'est quand même, je pense, pour un récit qui nous prend plus directement au ventre qu'à la tête, quoi.
Oui, ça. Par rapport à ça, il y a une question qui moi m'est souvent revenue par rapport à votre travail, qui était celle de la place de la narration à l'intérieur de votre boulot, en disant mais est-ce que c'est des gens qui détestent la narration ou quelle est leur position par rapport les outils de la narration traditionnelle, c'est-à-dire la récurrence d'un personnage, l'ellipse, mais aussi puisque l'ellipse vous la manipulez plutôt beaucoup, mais plutôt la récurrence, l'itération, ce genre de choses, donc une série de codes qui sont ceux de la bande dessinée. Le personnage, l'obstacle, le conflit, ce genre de choses sont maintes fois éludés. Est-ce que c'est quel est votre rapport par rapport à ça?
Parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Non, c'est-à-dire que le feuilletonisme, ça ne nous intéresse pas. Et raconter des histoires, l'horlogerie du scénario et la construction. Narrative dans le sens classique nous intéresse pas parce que je pense qu'elle est sans doute parce qu'on est tout le temps baigné dedans à la télé ou dans ce qu'on on a lu plein de choses et que finalement j'ai l'impression que la bande dessinée comme qui est quand même un format assez court arrive pas franchement à la cheville du cinéma ou de la littérature pour arriver à faire vraiment des choses très très complexes. Par contre, enfin, c'est pas une vérité non plus parce qu'il y a des exceptions évidemment, mais j'ai l'impression que pour moi et pour sans doute les gens un peu avec qui je travaille, la forme plus poétique, plus ouverte, plus expérimentale me semble mieux collée au format et au rapport de temps qu'il y a entre la lecture et la mise en œuvre du projet.
Un album comme la Fête des Mères, je ne m'attendais pas à le trouver, par exemple, publié par Frémok, puisqu'on était effectivement plus dans quelque chose de classique a priori, à savoir du découpage des personnages, un récit plus classique, mais avec quelque chose de graphiquement très, très réussi. Mais où effectivement, donc là, c'est plus par rapport à l'approche poétique de ce récit qui fonctionne finalement pour... c'est vraiment de la poésie, même narrativement, ça nous plonge dans un autre univers, dans des rêves d'enfants, dans des livres. C'est par exemple ce côté-là dans... dans ce bouquin qui vous a donné envie de le publier chez Frémok, puisque je le trouve assez différent de...
Et en fait, on est souvent surpris, les gens sont parfois surpris dès qu'un... Enfin, pour ceux qui connaissent le Frémok, dès qu'il y a des cases et des bulles, en fait, ils se disent, tiens, c'est bizarre qu'il soit au Frémok. Et finalement, il y a de la diversité dans le catalogue, comme il y a de la diversité parmi les gens qui font les livres et qui sont capables d'aborder plusieurs types. On n'est pas obtus, en fait. On n'est pas... je crois que nos livres donnent souvent l'image de gens un peu fermés, peut-être obstinés et un peu froids. Et là, je pense qu'on va arriver avec encore... Même quand on publie Attaque, c'est plus, entre guillemets, pop que d'autres choses qu'on peut faire. Mmh. Qu'on a pu faire et finalement ça évolue parce que ça évolue aussi parce qu'il y a des gens qui parce que l'équipe bouge et puis que je sais pas moi je suis pas fondatrice mais donc je sais que forcément c'est aussi toutes les personnalités qui s'additionnent et qui font que le catalogue évolue. Mmh. Et
il y avait Souvenir d'une journée parfaite en 2000 aussi. Enfin, ça fait pas figure d'exception.
Non, je le voyais pas comme l'exception, mais c'est pour reparler d'une actualité.
Mais j'y pensais aussi.
Justement, comme Stéphane abordait le côté absence de... Enfin, ou méfiance de la narration ou de la répétition de l'itération. Je repensais du coup à ce livre-là, parce qu'il m'avait beaucoup plu dernièrement. Et donc, pour un peu équilibrer par rapport à ce que disait...
Dans la plupart de nos livres, en fait, cette narration lisible, elle y est. Enfin, je veux dire, il y a très peu de livres dont on peut dire qu'ils sont difficiles à comprendre ou à ressentir. Effectivement, il y en a qui sont un petit peu plus développés au niveau du schéma narratif, et qui sont un peu plus traditionnels sur la base. Mais après, ce qui nous a intéressé, c'est aussi la manière dont la structure se déploie et arrive à créer une sorte de poétique dans lequel le dessin et le système de représentation devient générateur en fait du contenu. Mais je pense que c'est une espèce de mythe comme ça qui fait que nos livres seraient difficiles à lire, mais finalement on a des choses qui sont c'est extrêmement basique, c'est-à-dire que c'est pas qu'on ignore ça, c'est qu'on est même avant ces questions narratives là, c'est très très simple. Je pense qu'un livre qui parle des sillons comme de Vincent Fortan par exemple, si on essaie de le lire littéralement, c'est fort fluide, c'est fort simple, c'est pas un livre qu'on peut ne pas comprendre.
Mm-hmm. Et souvent, les gens qui viennent de la bande dessinée, qui en lisent beaucoup, de tout genre confondu, peuvent être effrayés, entre guillemets. Mais quand on aborde des publics, selon dans les salons, ce genre de choses, qui sont pas de la bande, qui lisent de la littérature, qui vont au cinéma, comme les lecteurs de bande dessinée, mais qui n'ont pas d'a priori, en fait, n'ont pas peur. Parce qu'ils n'ont pas une idée de ce qu'est la bande dessinée. Ils disent parfois même qu'ils en lisent jamais. Et nous, on leur dit c'est une bande dessinée. Ils disent ah bon, j'aurais pas cru. Cependant, ils n'ont pas peur. Ils se disent que c'est aussi possible. Et du coup, peut-être que d'imposer, d'essayer de dire tout le temps à des gens qui lisent beaucoup de bandes dessinées que nos livres sont aussi de la bande dessinée, parce que ce qu'on entend, c'est que ça n'en est pas. Enfin, bon, il y a toujours ce débat-là. Mais si on ne se pose pas cette question-là, en fait, quand on ouvre un livre de littérature, par certains genres très typés, polar, science-fiction, quand on ouvre un livre de littérature, on ne se demande pas vraiment quel genre c'est. On est touché par l'écriture, donc par la forme. Et puis on se laisse porter ou pas. Donc là, c'est un peu juste ça, juste de se laisser porter. Mais dans le genre, il y a aussi Marco Turunen qui, lui, à l'inverse, utilise complètement tous les codes de la bande dessinée traditionnelle, la plus populaire, pour la transformer complètement. Et il pratique un genre autobiographique, en fait, et il n'y a personne qui le fait comme lui, puisque bon, c'est vraiment... ça, c'est encore un autre sujet, mais voilà.
La fête des mères, je me souviens plusieurs fois que des gens m'ont dit « mais il n'y a pas de fin à ce livre », presque en demandant « mais vous m'avez vendu un truc où il manque des pages ».
C'est vrai qu'on m'a demandé aussi « est-ce que y aurait une suite ?»
Et alors ça pose la question « ah oui, une fin, mais je ne sais pas, c'est quoi une fin en fait ?» Et donc du coup, ça pose d'autres questions, mais et donc ça renvoie à une série de questions, de réflexions par rapport au code narratif et tout ça qui est pas... On va enchaîner avec un peu de musique et c'est le choix de Ève qu'on va écouter en premier. Si tu peux nous présenter cet excellent morceau de la compagnie créole que tu as.
C'est un excellent morceau d'une compagnie anglaise, c'est les Tindersticks. J'écoute ça depuis que je suis adolescente, toujours avec autant de bonheur. Donc voilà, un morceau de 93, le premier album.
Je vais pleurer.
Oui, moi aussi je pleurais maintenant, ça va, mais ça m'a conduit. Il y a toute une, voilà, je me reconnais dans cette forme de tension comme ça, un peu entre contenu et explosif.
Allons-y.
Voilà. Voilà, petit moment de nostalgie, non, je ne sais pas si on peut dire comme ça.
Ouais.
Mais on va revenir avec un bouquin aussi dont Johanna voulait nous parler.
C'est un bouquin que j'ai trouvé à l'archipel bande dessinée à Montreuil.
C'est quoi l'archipel, Johanna?
Eh bien, peut-être Eve et Thierry en parleront peut-être tout à l'heure. C'est une très bonne librairie du Salon Jeunesse. Mais c'est un livre... j'ai jamais pu le trouver ailleurs en fait. Je me suis jetée dessus parce qu'il est quasi introuvable. C'est un livre avec des images tirées d'animation d'un homme qui s'appelle Gianluigi Toccafondo. Donc c'est un animateur, certaines animations sont lisibles sur le blog. Et donc je voulais aboutir en fait mon pseudo-raisonnement, ma pseudo-présentation de l'ordre caché de l'art devait aller se réfugier dans quelque chose de visuellement plus réconfortant, qui était donc ces films, et je trouvais ça adapté dans le sens où il a recours à une technique qui s'appelle la rotoscopie, donc sa base c'est une prise de vue réelle qu'il retraite, qu'il monte lui-même et qu'il imprime ensuite. Et en fait, ces impressions, ces pages en noir et blanc, lui servent de canevas de base pour pouvoir peindre. Et donc cette peinture, ça fait un peu penser à Stefano Ricci. Et Thierry, tu disais que c'était un peu la même...
La même génération.
Donc il repeint chacune des images et il les refilme ensuite, et donc c'est comme ça qu'est créé le dessin animé. Mais donc une fois qu'il se dégage de la contrainte du mouvement vraisemblable, il se réapproprie, il soumet complètement l'animation à une pratique picturale. C'est très très rare en fait, parce qu'il faut trouver des solutions. C'est tellement contraignant que justement on rentre vite dans une logique et on rentre vite dans quelque chose d'automatique. En tout cas en animation, je trouve ça... vraiment, enfin, c'est assez rare, ce genre de travail est vraiment rare. Voilà, donc c'est très beau, c'est poétique et voilà, c'est rare.
Et ça aussi, tu nous as mis ça sur le blog.
Tout à fait, il y a deux films.
Sur le blog. Est-ce que tu t'es lavé les mains avant l'émission? Ok, merci Johanna. On va passer à une question juste pratico-pratique, je ne sais pas. Moi, je voulais revenir en tout cas sur l'historique. De Frémok, parce que les rumeurs les plus folles courent à votre propos. Et donc, je crois que c'est intéressant parce que c'est un parcours assez particulier quand même. De toute façon, toutes les maisons d'édition ou les personnes qui représentent des collectifs qui viennent ici, y passent, nous en parlent, parce que ça nous semble intéressant pour les gens qui vous connaissent moins. Donc Frémok, ça vient d'où de quand, voilà, dans les grandes lignes.
Bon, on va essayer de faire rapide et
oui, schématique. On ne doit pas avoir un PV donc, de toutes les réunions. Hein, mais...
Alors, y a un premier truc, c'est en 91, en Belgique. Moi, je sors de Saint-Luc avec Olivier et Denis Depré, avec Vincent Fortan, il y avait Olivier Pop, il y avait Jean-Christophe Long et Dominique Goblet. Et donc, à ce moment-là, on crée un groupe... On se retrouve plus ou moins, un certain nombre d'entre nous, on se retrouve dans un atelier de gravure, on fait des portfolios en gravure, c'est notre premier rapport à la publication. On va faire une expo à la galerie Sans Titre, qui était une bonne galerie qui existait à ce moment-là, et on crée un groupe informel qui s'appelait Frigo Productions. On fait plusieurs revues qui s'appellent Frigo Revue, et puis à un certain moment, on décide de rationaliser tout ça, et on fait un peu de rangement, et on fait une ASBL qui s'appelle Fréon, qui est donc le gaz qui fait fonctionner le frigo. Et puis là, on commence à devenir un peu, malgré nous, éditeurs, parce qu'au départ, on avait créé ça vraiment pour avoir une vitrine et pour avoir un laboratoire à usage personnel, on va dire. Et puis finalement, on rencontre des gens et on décide de les éditer aussi. Donc c'est Martin Tomdyk, Stefano Ricci, pour les auteurs en dehors de nous. Un peu plus tard, Alex Barbier. Puis on décide de faire un festival qui regroupe tous les indés qui commençaient à fleurir à ce moment-là en Europe. Donc c'était le début aussi de l'association de Strapazine, de Boxer, et c'est à ce moment-là qu'on rencontre les gens d'Amok. Donc il y a eu plusieurs aussi plusieurs
Amok qui est une structure française.
Qui est une structure française, ouais. Alors voilà, ça c'est une première chose. Et puis de l'autre côté, plus ou moins en même temps que nous, donc vers 91-92, il y a Olivier Marbeuf et Yvan Lagbé qui créent une revue qui s'appelle d'abord L'œil carnivore, puis qui devient Le cheval sans tête. Et puis ils créent la structure qui s'appelle Amok, et eux deviennent très très vite éditeurs, donc ils commencent à éditer, donc outre la revue Le Cheval Sans Tête qui devient assez vite une revue incontournable du paysage de la BD indépendante, ils puis commencent à publier beaucoup d'auteurs nouveaux à ce moment-là, enfin qui existent, qui avaient déjà une pratique depuis un certain temps mais qui n'étaient pas du tout publiés en France. C'est essentiellement la scène espagnole, donc Raoul, Cava, Del Barrio. Et aussi, ils commencent à publier des auteurs allemands, et assez vite, on se rencontre à Autarcic Comics. On se rencontre déjà un peu avant. Eux reprennent Autarcic Comics sur la France, donc c'est une espèce de première... on va dire de
collaboration
ou de dédoublement du travail. Donc il y a Autarcic Comics Bruxelles qui a lieu une fois par an, une fois tous les deux ans, puis il y a Autarcic Comics Paris qui a lieu tous les mois. Assez vite, en fait, on se rend compte qu'on a vraiment beaucoup de points en commun, qu'on a envie de publier les mêmes auteurs et qu'on publie en partie d'ailleurs les mêmes auteurs. Donc par exemple, Eric Lambé publié dans les deux structures, Martin Tomdyk aussi, nous on a envie de publier Stefano Ricci aussi, on a envie de publier Raoul, enfin bon. Et finalement, on se prend vraiment d'amitié, mais enfin, on a vraiment une préoccupation commune et une envie de défendre le même type de bande dessinée. On a la même vision de la bande dessinée d'auteur. Et donc on prend de plus en plus régulièrement des stands en commun sur les festivals. On discute de plus en plus des bouquins ensemble. Et assez vite, en fait, ça devient inévitable qu'on a plutôt intérêt à grouper nos forces qu'à continuer chacun séparément. Et donc on fusionne en 2000.
En juin 2002, les éditions Amok et Fréon deviennent le Frémok.
Voilà. Et donc,
des accords signés et tout. Hein.
Les documents ne seront pas sur le blog cette fois-ci. Mais
Et donc au début, on a continué à travailler avec deux structures, une structure à Paris et une structure à Bruxelles. Et puis finalement, la structure de Paris a plus ou moins fermé et toute l'administration s'est concentrée sur Bruxelles. Ève est venue habiter à Bruxelles. Donc ce qui se passe maintenant, c'est qu'il y a une structure de travail et de coordination, on va dire, qui est sur Bruxelles. Il y a des gens qui travaillent encore sur Paris. Il y a des gens il y a eu l'éclatement européen des auteurs du Frémok, qui était à un moment aussi les chevilles ouvrières de l'association. Donc au départ, pour Bruxelles, il y avait plein de gens qui étaient, bon, Vincent Fortan, Olivier Depré, tout ça, qui sont partis à l'étranger. Donc on est maintenant à deux à Bruxelles à travailler sur l'administration et la coordination. Et puis il y a des gens, trois filles, donc Lison, Marie et Carmela qui sont sur Paris. Et puis il y a tous les auteurs et les gens qui travaillent par moment pour certaines choses, qui sont eux éparpillés un peu partout, principalement sur la France. Voilà. Donc aujourd'hui, le Frémok, on va dire que c'est une structure qui est gérée par cinq personnes, mais qui compte à d'autres niveaux beaucoup plus de personnes impliquées. Par exemple, sur tout ce qui est les décisions artistiques, ce sont des décisions qui sont prises collégialement par 11 personnes qui mélangent les gens qui sont dans l'administration et la gestion et les auteurs les plus impliqués dans le projet.
Wow. Est-ce que c'est compliqué ? Est-ce que ça se fait facilement, ce genre de choses ?
Mm-hmm. C'est toujours compliqué. On ne sait jamais très très bien comment on fonctionne nous-mêmes. On est toujours dans le processus et en train d'essayer de remettre les choses à plat et de clarifier, d'optimiser tout ça. Mais là, pour le moment, on a un gros chantier à réenvisager. Mais oui, c'est compliqué. En même temps, ça marche un peu. Et puis, ça dépend un peu des moments et des projets. Et tout se fait via Internet et via des blocs fermés.
Mmh. Wow. Donc, justement, par rapport à la ligne éditoriale, comment est-ce qu'on peut parler de ligne éditoriale ? C'est aussi une question récurrente qu'on pose aux gens qui viennent nous parler ici de leur structure, certains nous avouant que la ligne éditoriale, elle se décide un peu comme ça, au tout venant, en fonction des projets et tout ça. Enfin, voilà, comment est-ce que ça se passe chez vous ? Comment est-ce que...
C'est pas un critère, c'est pas une... Enfin, je crois que ça dépend des gens. Je pense qu'il y a parmi ce collège de gens qui votent pour les projets, il y en a qui ont l'idée d'une ligne éditoriale. Moi, personnellement, je l'ai... Enfin, on la pense pas comme telle. Après, il y a des choses donc, qu'on aime et dont on sait, pense que finalement, leur place serait quand même pas chez nous, mais c'est pas lié à l'idée d'une ligne éditoriale.
Il n'y a pas de ligne éditoriale dans le sens où il n'y a pas de critères, quoi. Ouais. Il n'y a pas une grille qui dit « ce livre-là, ça remplit telle condition, ok, on va le faire ». Et c'est plutôt le contraire, en fait. Finalement, il y a une éditoriale dans le sens où les auteurs, quand on a commencé à publier, on va essayer de les soutenir et continuer à travailler leur projet. Et si c'est des nouveaux projets, on a surtout envie que ça ressemble pas du tout à des choses qu'on fait déjà. Et finalement, on a plutôt envie d'étendre le champ de ce qu'on attend de nous plutôt que de se dire ça fait un bon livre, ça c'est bien Frémoc, tiens, on va le faire.
Là, parfois on reçoit des livres dont sans doute les gens pensent que c'est des livres pour nous parce que ça ressemble un peu à du Vincent Fortin, un peu du Dominique Goblet, et nous c'est vraiment évidemment pas du tout pour nous, soit parce qu'on l'a déjà et qu'on va pas publier, ou qu'on va pas payer du sou de quelque chose qu'on fait, de l'original.
Avec dans les choses qui sont sorties ces dernières années, il y a des choses assez intéressantes qui me semblent comme Match de Catch à Vielsalm ou moi un projet que j'aime assez bien qui est Démoniaque, qui sont des choses dans lesquelles on sent qu'ils sont impulsés une certaine dose de violence qui était déjà présente. Hein, on a parlé tout à l'heure de Barbier, quelqu'un qui est arrivé avec une bande dessinée assez trash mêlant sexualité, homosexualité, bestialité, ce genre de choses, donc qui était déjà présente dès les débuts, mais des projets comme Démoniaque, on a l'impression qu'il y a quelque chose comme une espèce de souffle de liberté qui traverse aussi, qui est plus que celle d'un auteur, mais aussi celle qui insuffle à une structure. Est-ce que c'est quelque chose... Je ne sais pas si je me suis toujours dit que ça devait être Eve qui devait apporter ça, donc, évente ça, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ?
Démoniaque, c'est Démoniaque qui l'a apporté tout seul.
Ouais,
mais...
Démoniaque, c'est Démoniaque. Il y a Action Mix Comics Commando, qui est l'atelier que Thierry a créé après sa collaboration avec Richard Baouin sur la gravure et sur et donc qui est un atelier collectif,
ouais, vous pouvez nous parler de ça aussi,
qui est ouvert au public, qui est fait pour que les gens se rencontrent et se mélangent, ou pour qu'il n'y ait plus de notion d'auteur, puisqu'à la fin tout est l'idée, donc c'est un processus un peu long à expliquer, mais à la fin les dessins de tout le monde sont découpés, mélangés, et on ne sait plus qui a fait quoi. Et donc sans doute que moi je suis pas auteur, mais je sais que pour Thierry ça représentait un souffle. Enfin, Vielsalm, pour tous les auteurs qui y ont participé, ils l'ont après vécu comme quelque chose qu'ils avaient transformé, et qui donc se souffle et tout d'un coup on fait des choses lâchées. Parce que par les sillons, Gloria Lopez, tous ces livres qui ont mis 10 ans aux auteurs à faire, Le Château. Ouais. Donc je pense qu'ils ont tous quelque part maintenant, alors je sais pas si c'est les jeux, c'est pas moi je pense, mais le pendant de liberté.
Par exemple, la littérature est quand même assez présente dans les débuts de Fréon et dans Frémaux, quelque chose qui est lié aux belles lettres, aux beaux-arts. Et ici, avec des projets comme celui-là, on a quelque chose qui vient un peu casser ça. D'un seul coup, on a du Hulk Hogan, on a de la politique française, on a des fellations, on a ce genre de choses.
Ouais. Mais ce qui est bien, c'est d'avoir les deux. Hein. Ce qui est bien, c'est de continuer toujours à avoir...
Les belles lettres, il a fait la cible.
Voilà. Et je pense qu'on a toujours eu... Enfin, je pense que quelque part, notre démarche, on a toujours épousé une posture politique, on va dire. On a toujours eu envie que ce soit... Enfin, c'est un acte de résistance qu'on fait, parce qu'on est tous quand même bénévoles, malgré nous. C'est un truc... tout le monde nous a dit que ça allait jamais continuer. C'était pas possible de tenir ce challenge-là pendant 10 ans. Donc au début, on a fait effectivement sans doute que des choses très, très sérieuses parce qu'on voulait sans doute aussi se légitimer d'une certaine façon. Je pense qu'on est sans doute plus détendu aujourd'hui. Mais je pense que ce sérieux, cette rigueur et cette envie de développer des projets quand même assez lourds et ambitieux, costaud, elle sera toujours là, mais il y a toujours eu en même temps, je pense, depuis le début, ça et son contraire, donc une certaine désinvolture et une certaine envie de trouver une spontanéité un peu à l'arrache, quoi. Et je pense que dans les expos de Frémok au départ, quand on faisait des installations et tout, il y avait aussi, je me souviens que Vincent Fortan, il installait tous ses vieux filtres à café et tout, un tas de bazar dans des expos. C'était déjà franchement rigolo comme proposition, mais c'était jamais que ça non plus. C'était quand même toujours quand même un peu dérangeant ou malodorant, quoi. Et je pense que, bon, ben, démoniaque, c'est pas un truc marrant non plus. C'est quand même un truc qui est assez sérieux et assez...
Ah oui,
agressif. Donc il y a ça amène à poser des questions et je sais pas, c'est même aussi un projet qui est pas évident à porter en tant qu'éditeur. C'est que
c'est vrai, pour il y a des, quoi, à cause des retours négatifs potentiels, ou
non, parce que il faut arriver à le passer en librairie, parce que il faut le supporter, pour le moment c'est pas, justement il y a plein de questions autour de ce projet là Il faudrait que démoniaque qu'on en parle, mais donc après, ouais, voilà.
Je vais juste revenir sur le, pour qu'on comprenne bien le, parce que pour l'avoir vu une ou deux fois de près, donc l'atelier dont on parlait, l'Action Mix Comics Commando, je sais jamais si je le dis correctement, vous le faites dans des festivals, aussi dans des écoles, avec des publics radicalement différents. Donc concrètement, comment ça fonctionne et
Au départ, on arrive avec deux films. Donc dans le dernier qu'on a fait, c'était en Suisse, à Genève, avec des écoles de... comment on appelle ça, art et métier. Et donc, il y avait deux films. Il y avait Airspray de John Waters et il y avait Freaks de Todd Browning. Et donc, on fait une série de captures d'écran des images des films. On les donne aux participants. Donc, ils ont des images noir et blanc. On leur donne des plaques de linogravure et on leur demande de choisir des images et de faire des dessins à partir de ça. Donc, dans un premier temps, il n'y a pas du tout de prise de prise de tête. Il n'y a pas de questions à se poser. On prend une image, on commence à graver. Et là, il y a directement un processus très, très physique et très jouissif qui submerge les gens parce qu'ils sont directement dans le dessin, ils ne se posent pas de questions, il n'y a pas à réfléchir sur ce que je vais faire comme projet et tout. Et puis c'est après que ça commence à se corser. Donc après, on considère que toutes les gravures que les gens ont faites, c'est-à-dire sur 2 jours, on arrive quand même à avoir facilement une centaine de plaques quand on a des grandes équipes, ça crée une sorte de bibliothèque d'images qui est à la disposition de chacun. Et donc tout le monde peut prendre les gravures qui ont été faites par tout le monde, les imprimer sur des feuilles qui sont en général pas des feuilles blanches, mais qui sont des papiers soit préparés, soit de la récup, des vieilles affiches, des papiers d'emballage cadeau, enfin n'importe quoi. On a un grand tas de papiers de toutes sortes au sol. Les gens choisissent et leur plaque et leur papier. Ils commencent à imprimer là-dessus et ils doivent découper dans leurs impressions et faire des collages à partir des gravures de tout le monde. Ça crée des nouvelles images qui deviennent les cases de la bande dessinée qu'on va faire. On les met au sol et on commence à essayer d'agencer ces images pour avoir une sorte de coulée narrative, on va dire.
Je pense plus dire un récit.
C'est bien aussi couler narratif.
Avec des personnages. Non, pas avec des personnages.
Si, il y a des personnages. Il y a plein de personnages. Trop, Et donc, quand on a une espèce de logique qui se crée, ben, on estime qu'on a une bande dessinée. Et alors, on va aller chercher un texte...
Ceci, c'est bien d'estimer que c'est une bande dessinée. C'est finalement tout. Ah, et ça toi, suffit. Juste là, si tu estimes que c'en est une ou pas.
Et donc, pour bien coudre tout ça ensemble et que ça ait l'air d'être pensé, on va mettre un texte qui vient encore d'ailleurs dessus. Donc on essaie quand même de choisir un moment du texte qui peut fonctionner avec. Et en général, je me constitue une espèce de bibliothèque parallèle faite que de vieux livres des années 60-70 qui parlent de choses très sérieuses comme la vie de la femme au foyer, la sexualité des jeunes de 18 à 20 ans, l'origine des obsessions sexuelles, les ordinateurs, mytho réalité.
Presque des que sais-je ou des choses
voilà,
comme
des
ça.
Voilà, des trucs comme ça. Et donc je coupe les gens qui sont là peuvent couper. En général, c'est moi qui le fais, mais sauf le dernier où c'est tous les étudiants qui les ont fait. Ça, c'était très bien. On coupe des morceaux là-dedans, on met le texte entre les images et évidemment, c'est magique, ça marche toujours. Ça, on trouve un rapport entre les images, le texte et tout, et donc on a une bande dessinée à la fin. C'est un processus unique pour faire une bande dessinée.
Il y a un blog.
Et donc après, on publie les livres sur lulu.com, donc, ce qui permet aux participants de commander un vrai livre dans lequel ils ont participé.
C'est un livre fait à la demande, en fait. Ouais, c'est ça, le principe de lulu.com.
Print on demand. Cool.
Très bien. Alors, l'heure de la fin de l'émission approche. Avant de passer le morceau de Thierry qui va conclure la soirée, est-ce que vous pouvez nous parler des prochaines productions? C'est quoi vos prochains livres? C'est quoi vos projets? Pardon?
Je dis où l'actualité.
Voilà, l'actualité. Comme chez Michel Drucker, qu'est-ce que vous allez nous vendre?
L'instant promo.
Exactement. Voilà. Qu'est-ce que vous allez nous vendre?
Eh bien, demain,
ça arrive pas souvent.
Demain au Wills, il y a la remise des diplômes du prix Fernand Baudin, qui est comme le prix du plus beau livre français, ce qui est plus connu. Donc voilà, c'est l'équivalent. Vincent Fortan l'a eu pour Par les sillons. Il est lauréat. Ouais. L'occasion de boire un verre, de le rencontrer, il sera là.
Avec une belle écharpe.
Avec une belle écharpe, parce que maintenant il paraît qu'il y a des écharpes en plus des diplômes.
Waouh.
Et donc ça, c'est l'actualité de demain. L'actualité d'après-demain.
Il y a une exposition de Vincent Fortan à la librairie Ombre Blanche à Toulouse.
J'en peux faire un.
Et donc, sinon, les prochaines sorties, c'est un livre d'Alex Barbier qui s'appelle Le Dieu du 12, qui est une réédition d'un livre qui s'est sorti, mal sorti chez Albin Michel en 79, je crois. Dont toutes les planches originales ont brûlé dans l'incendie criminel qui a ravagé l'atelier de Barbier. Donc, il a été refait en partie de l'édition d'Albin Michel et des planches parues dans Charlie, parce que ni l'un ni l'autre n'était complet. Et donc ça, c'est un vrai livre culte et pour nous, une vraie bonne fondation de la bande dessinée contemporaine.
Oui, Héroïne déjà s'en parlait. Hein.
Ouais. Héroïne en a déjà parlé ici. Et qui sort quand, lui, alors?
En mai. Au mois de mai. Et au mois de mai, il y a aussi deux Flore, la petite collection. Il y a un d'Attaque, Cube, et un Éric Lambé qui fait son grand retour au Frémoc.
Il amorce son grand retour avec un livre qui s'appelle « Joue avec moi, Play with me », en attendant un très gros livre avec son travail au Big Bleu, qui s'appelle « Le fils du roi » et qui devrait sortir en novembre, je crois. Voilà, à la rentrée, il y aura...
Anke Fechtenberger, pour enfin connaître la fin de l'histoire de la putain de paix, puisqu'on parlait de personnages et de fin de récit, donc... Enfin, savoir ce qui lui arrive.
On reçoit souvent des mails des auditeurs qui nous demandent.
C'est la putain P.
On en a un peu marre. Inviter Frémoc pour qu'on en sache plus. Donc, on est content de vous recevoir.
C'est quand même un très gros livre d'Attaque qui est une réécriture de Krastinias, qui est un monument.
Ah oui.
Du livre jeunesse et tout à la peinture, 90 pages très belles. Voilà. Et des Marco Turunen qui arrivent. Et des
Marco Turunen. Parquet entière. Très bien, merci. Eh ben, on va clôturer cette émission. Alors, on se donne rendez-vous dans plus ou moins un mois. Je n'ai pas la date précise ici, ni encore l'invité. Mais on va vous dégoter des gens bien. Et donc Thierry, voilà, tu as la parole pour clôturer cette émission et nous présenter ton morceau de musique.
Ah oui, ben c'est un morceau de Pipi Lotiriste. Qu'elle proposait comme bande-son d'une de ses installations, qui était très, 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 très belle. Et ouais, j'aime bien l'ambiance qu'il y a dans ce morceau. Et ça, bon, bah, c'est Pipi Lotiriste. Et puis, ça me rappelle aussi, évidemment, une séquence d'un film de David Lynch et Chris Isaac. Et puis, voilà.
Voilà,
merci. Ça amène des images.
Merci beaucoup Thierry, merci beaucoup Ève, merci Johanna, Stéphane, Nicolas.
Merci à tous.
Berger, Jean-François, bonne soirée à tous.
Yes.